C'est écrit pour nous, une émission présentée par le pasteur Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous multiplie la grâce et la paix. Merci pour votre fidélité à l'écoute de FM Évangile 66. Pour ma part, heureux de vous servir en vous annonçant la parole de Dieu. Il a été un homme de Dieu très important, au point d'être mis par Dieu au même rang que Moïse. Deux livres de la Bible portent son nom. Je cite Psaume 99, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom, s'adressaient à l'Éternel, et il les exauçait. Je cite encore Jérémie, chapitre 15, verset 1er. Le Seigneur me dit, « Même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de moi, je ne me laisserai pas fléchir en faveur de ce peuple. Débarrasse-moi de sa présence et qu'il s'en aille. » Samuel a été l'homme qui a vécu la transition, la fin de la théocratie, selon l'expression utilisée par Flavius Joseph. Jusqu'alors, Dieu dirigeait son peuple à travers ses prophètes, mais, dans la vieillesse de Samuel, les responsables d'Israël feront la demande suivante. Je lis 1 Samuel chapitre 8 verset 5. Vois-tu, Samuel, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Et, à Samuel dépité et mécontent, le Seigneur répond ceci. Écoute les Israélites, accepte leurs revendications. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils vont maintenant le faire avec toi aussi. C'est pourquoi accepte leurs revendications. Seulement, avertis-les solennellement et indique-leur quels seront les droits du roi qui règnera sur eux. Pour l'heure, nous parlerons simplement du jeune Samuel et de quelques leçons qui émanent de sa jeunesse. Puis, nous verrons en deuxième partie de l'émission quelques instructions relatives à l'exercice du don de prophétie dans le cadre des réunions de l'Église locale. Son nom, Samuel, est un puissant encouragement à prier le Dieu vivant et vrai. C'est sa mère qui lui a donné ce nom, car, dit-elle, « c'est au Seigneur que je l'ai demandé. » Premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 20. En effet, Samuel signifie « entendu de Dieu » ou « exaucé de Dieu », ce qui revient à la même chose. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, le confirme en ces termes. Je cite, chapitre 5, verset 15. Sachant donc qu'il nous écoute, qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Jean affirme cela, après avoir précisé, je cite, « Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. » Voici comment la mère de Samuel, nommée Anne, a été amenée à demander au Seigneur cet enfant. Anne est l'une des deux épouses d'un homme nommé Elkana, habitant à Rama dans la région montagneuse d'Éphraïm. L'autre épouse se nomme Pénina. Elle avait des enfants, tandis qu'Anne ne pouvait pas en avoir, d'où une source de souffrance pour Anne, d'autant plus que sa rivale ne cessait de la vexer pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Chaque année, Elkana, avec sa famille, se rendait à Silo pour adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir le sacrifice. Une certaine année, Anne a, comme on dit, craqué. Là, en présence du prêtre Élie, elle a formulé cette prière. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi, donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. » Une précision nous est donnée quant à l'expression de sa prière. Anne parlait en elle-même. Seules ses lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Élie la prie pour une femme ivre. La prière peut être exprimée à haute voix ou silencieuse, en public ou en privé. Quoi qu'il en soit, comme le dit David au psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Bien-aimé, n'hésite pas à faire appel au Seigneur, qui est le Dieu miséricordieux et compatissant. Parce qu'il se méprend sur l'attitude d'Anne, Élie la rudoie. « Va cuver ton vin ailleurs. » Réponse d'Anne, « Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors, Élie la renvoie avec une parole appropriée d'encouragement. « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Lorsque l'enfant est sevré, et bien qu'il soit encore tout jeune, Anne l'amène au sanctuaire du Seigneur à Silo et le confie à Élie en disant « Le Seigneur m'a donné cet enfant. À mon tour, je veux le donner au Seigneur. Pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. » Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 et 4 « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Bien-aimés, soyons sérieux avec le Seigneur et il le sera avec nous. Maintenant, le jeune Samuel est au service du Seigneur. Chaque année, sa mère lui confectionne un petit vêtement qu'elle lui apporte quand elle vient avec son mari offrir le sacrifice annuel. Chaque année, un vêtement nouveau. Car c'est bien naturel. L'enfant grandit. Au chapitre 3 et au verset 20, il est confirmé ceci. Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui, et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Dans la marche chrétienne, dans la vie spirituelle, il est normal qu'il en soit de même. C'est un motif pour l'apôtre Paul de se réjouir et de rendre grâce à Dieu pour les chrétiens de Thessalonique. Je le cite, « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » Nous verrons plus en détail ce qui concerne cette croissance après la pause musicale. Restez avec nous.
Thank you.
le jeune Samuel grandissait. C'est normal, car l'anomalie, c'est cette situation que Paul dénonce dans sa première lettre aux Corinthiens. Je cite chapitre 3, versets 1 et 2. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. » Les Corinthiens avaient un comportement de section maternelle. Des jalousies et des rivalités, entre autres choses, se manifestaient au milieu d'eux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne une lacune chez les destinataires de sa lettre, relative à la compréhension des Écritures. Je le cite, chapitre 5, versets 12 à 14. « Vous devriez être depuis le temps des maîtres et vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes arrivés au point d'avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Quiconque en est encore au lait ne peut suivre un raisonnement sur ce qui est juste, car c'est un bébé. Les adultes, par contre, prennent de la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont les sens exercés à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ces choses traduisent l'absence de développement de la vie spirituelle après des années de conversion. La jeunesse et le manque d'expérience ne sont pas des maux incurables. Il y a un commencement à toute chose. Je me souviens encore comment mon cœur palpitait lorsqu'après mon baptême, j'avais 17 ans, je venais à l'église rendre un culte à Dieu avec la ferme intention de le louer à haute voix dans le temps assigné à cela. J'attendais que les habitués aient loué en premier, et il faut bien qu'il y ait des premiers. Et je me disais, bon, après cette personne, tu ouvres la bouche. Et comme j'hésitais, une autre prenait la place. Le culte terminé, je repartais déçu et avec un sentiment de frustration. Cela a duré deux dimanches. Puis, déterminé, le troisième dimanche, j'ai, pardonnez-moi l'expression, foncé dans le tas. J'avais mémorisé ma louange. Mais avec l'émotion, j'ai mélangé le sujet, le verbe et le complément. Mais quel bonheur, à la fin de ma courte prise de parole. Depuis, j'ai compris que cela doit sortir simplement de notre cœur comme un parfum véritable. Le Seigneur n'est pas impressionné par, entre guillemets, les belles phrases. Dieu parle de diverses manières. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Il ne parle pas dans le vide. Voulons-nous entendre sa voix? Alors, écoutons. Du temps du jeune Samuel, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Le jeune garçon va apprendre à connaître la voix de Dieu alors qu'il sert le Seigneur auprès du sacrificateur Élie dans le sanctuaire de Silo. Une nuit, pendant que Samuel dort, le Seigneur l'appelle. Samuel, Samuel. Samuel ne connaît pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé directement jusqu'à ce moment. Alors, Samuel se rend en courant chez Élie. « Tu m'as appelé, me voici. » Réponse d'Élie, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Le Seigneur appelle une seconde fois, « Samuel, Samuel !» Nouvelle démarche auprès d'Élie. Et réponse identique, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » À la troisième fois, Élie comprend que le Seigneur appelle l'enfant. En lui enjoignant de retourner se coucher, il lui donne ce conseil. « Si on t'appelle de nouveau, tu répondras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et cette fois, à l'appel de son nom, le jeune garçon, haut comme trois pommes, imaginez la scène. Samuel dit avec un grand sérieux, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ce que Dieu dit alors à Samuel est époustouflant. Je cite, « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai, à l'égard d'Élie, toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille, du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables, et il ne les a pas châtiés. » Le lendemain, Élie exige de Samuel de tout savoir. Et après avoir entendu, il dit, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » Dieu parle à ceux qui sont prêts à l'écouter. Pour entendre sa voix, il faut se mettre sur la bonne longueur d'onde, comme le capitaine de l'armée romaine nommé Corneille, recevant l'apôtre Pierre dans sa maison, dans laquelle un groupe de personnes est réuni. On donne la parole à Pierre en ces termes, je cite, « Maintenant, nous sommes tous ici, devant Dieu, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » Et l'écoute attentive de l'Évangile génère dans leur cœur la repentance, suivie du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia ! Dieu a parlé à Samuel à travers une vision. Si du temps de Samuel, il était rare que le Seigneur parle ou accorde une vision à un homme, pour ce qui nous concerne, entendons ce que l'apôtre Pierre affirme dans le discours qu'il prononce le jour de la Pentecôte. Je cite, « Maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui avait été promis a été répandu. Voici maintenant une parole pour ceux qui, de nos jours, ont reçu le Saint-Esprit. Amos chapitre 3, verset 8. Le lion rugit. Qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui pourrait ne pas prophétiser? Prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Nous entrons sur un terrain délicat, et il faut l'admettre, trop de dérives, trop d'excentricité ont fait du mal au témoignage chrétien. Voilà pourquoi beaucoup de milieux chrétiens ont choisi d'éluder la question posée par le prophète Amos. Le lion rugit, qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui pourrait ne pas prophétiser? Prophétiser, ce n'est pas s'immiscer dans la vie des autres pour les manipuler, mais comme le souligne l'apôtre Paul, c'est parler aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Dans ce sens, prophétiser, ce n'est pas annoncer l'avenir, mais simplement apporter une parole qui instruit, encourage et réconforte. Prophétiser, c'est donc servir Dieu en étant en bénédiction aux autres. Avec cet éclairage, la question d'Amos prend une tournure encourageante, une véritable incitation à désirer les dons spirituels, surtout celui de prophétie. Toutefois, certaines personnes ont la crainte légitime de prendre leurs propres pensées pour celles de Dieu. Ces personnes-là sont plus faciles à enseigner que celles qui, à l'inverse, parlent comme si elles étaient Dieu en personne. Or, il n'en est rien. Le canal humain est sujet à caution, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être circonspect à son égard. Voici ce que l'apôtre Paul écrit, je lis, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, « Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent, c'est-à-dire évaluent ce qu'ils disent. » Aux Thessaloniciens qui avaient jugé indigne d'attention ou d'intérêt la pratique des dons spirituels, Paul leur écrit ceci, « Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, au contraire. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Redisons-le avec force, tous ces messages divins doivent être passés au crible des Écritures, car la parole et l'Esprit ne peuvent se contredire. Après la page musicale, nous analyserons, à la lumière des Écritures, les manifestations de la prophétie au sein de l'Assemblée des croyants. Restez avec nous. Mettons maintenant le focus sur les dons du Saint-Esprit, selon les termes par lesquels l'apôtre Paul introduit l'enseignement qu'il apporte aux chrétiens de Corinthe. Je lis 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, Bible français courant. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. La version La Bonne Semence traduit le verset comme suit. Au sujet des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et la version du Semeur 2000 traduit comme suit. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. L'enseignement dispensé par l'apôtre commence au chapitre 12, verset 1er, et se termine au chapitre 14, verset 40, par ces mots. Seulement, que tout se fasse avec dignité et ordre. Version français courant. et dans la version du Semeur de 2000 par ces mots. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Nous pouvons être surpris, voire étonnés par le mot « désordre », car Paul vient de parler des dons spirituels ou manifestations du Saint-Esprit. Précisons ceci. Il s'agit des manifestations du Saint-Esprit à travers le canal humain. Et la clé pour comprendre l'enseignement de l'apôtre est bien là. Car canal humain fait allusion aux limitations et faiblesses qui lui sont naturelles. Hélas, à cause de ces faiblesses, certains interviennent d'une manière intempestive et donc inappropriée. Ceux qui reçoivent ces dons ont l'entière responsabilité de leur exercice dans le temps approprié. L'apôtre le précise ainsi, je lis 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Et dans la version français courant, ceux qui transmettent de tels messages doivent rester maîtres du don qui leur est accordé. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Oui, le prophète a le contrôle du don qui lui est confié. Dans l'exercice de la prophétie, il y a deux phases, la réception et la communication. Car avant de communiquer, il faut avoir reçu. Et comme le déclare Jean le Baptiste, je cite, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Revenons à l'exemple du jeune Samuel. Lorsque celui-ci est prêt à recevoir, Dieu lui révèle sa pensée. Réception 5 sur 5. Mais Samuel a peur de raconter sa vision à Élie. La communication se fera sur l'injonction de ce dernier. Réception, communication. Deux phases bien distinctes. Par son injonction, Élie a donné un, pardonnez-moi l'expression, un coup de pouce à l'inexpérimenté Samuel. Le lion rugit, qui ne serait pas effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui pourrait ne pas prophétiser. Le Seigneur sait encourager ceux qui désirent le servir, qui aspirent à recevoir les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Il y a maintenant plusieurs décennies, une chrétienne priait pour recevoir le don de prophétie. Elle était dans la crainte de se tromper, de prendre sa pensée pour celle de Dieu. Lors d'un culte, elle reçoit une pensée et hésite à la communiquer. La personne assise juste devant elle commence à exprimer cette même pensée. Mais celui qui dirigeait le culte ne l'a pas entendu et a entonné un cantique. La personne est interrompue. Cependant, elle n'a suffisamment dit pour que celle qui avait prié prenne conscience que ce qu'elle avait aussi reçu venait bien du Seigneur. Pour l'encourager, je lui ai posé cette question. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Par crainte, ne pas communiquer la pensée du Seigneur ou au contraire, transmettre une pensée personnelle. Réponse, si je retiens la pensée du Seigneur, je prive une ou plusieurs personnes d'un encouragement que le Seigneur voulait leur apporter. Si je prends ma pensée pour celle du Seigneur, ceux qui l'entendent ont instruction, non pas de se mettre au garde à vous, mais bien d'évaluer ce qu'ils ont entendu et ils retiennent ce qui est bon. Et s'il n'y a rien à retenir, on passe à autre chose. Alors, avec cet éclairage, il vaut la peine de surmonter sa crainte dans le respect de la consigne. Pour ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole. Il est malséant de passer outre, comme hélas quelques-uns ont coutume de le faire. Et si on leur en fait la remarque, ils se défaussent de leur responsabilité sur le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit connaît bien l'Écriture et il sait compter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul conclut. l'enseignement concernant les dons spirituels par ces mots. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Je recommande fortement la lecture du livre intitulé « Les dons de l'esprit » de Harold Orton aux éditions Viens et Voix. Par la qualité de son enseignement, Harold Orton non seulement éclaire le sujet d'une façon limpide, mais il le fait d'une manière telle qu'il suscite un grand désir de les rechercher. Extrait. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Face à un paralytique, le don de la parole de connaissance sera inopérant, tandis que le don des guérisons le sera tout autant face à une situation cachée. Le don le meilleur sera simplement celui qui, dans une circonstance particulière, répondra aux besoins. Ainsi, le don de guérison répondra à l'attente du paralytique, et la parole de connaissance dévoilera la, entre guillemets, « roublardise de Géasi », Deux Rois, chapitre 5, verset 26. La voie par excellence, montrée au chapitre 13, établira la différence entre les dons exercés avec amour et ceux exercés sans amour, et non une supposée supériorité de l'amour sur les dons, ce qui conduit parfois certaines personnes à déclarer avec une, entre guillemets, fausse humilité, « Vous, vous avez les dons, moi j'ai l'amour ». Grande importance d'être au clair sur ces manifestations, voir 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 3. L'ignorance que Paul, par l'Esprit, reproche aux Corinthiens n'est pas l'ignorance des dons eux-mêmes, car ils les connaissaient et les possédaient, mais bien celle de leur emploi et de leur contrôle. Face aux manifestations occultes, c'est-à-dire contrefaçons d'origine spirite, le chrétien doit connaître la différence fondamentale entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. La manifestation de l'Esprit est toujours en accord avec la révélation de l'Écriture, car l'Esprit et la parole ne sont qu'un. Rappel, lire Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. S'il s'élève du milieu de toi un prophète, et qu'il y ait accomplissement du miracle dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux », tu n'écouteras pas les paroles. Ce qui veut dire « tu ne les suivras pas ». 1 Corinthiens chapitre 12, 12 à 21. Les membres de Christ, que sont les croyants, sans la manifestation des dons spirituels, sont semblables à des membres sans vie, paralysés, tels des organes dépouillés de leurs facultés. Les dons spirituels sont aussi facultatifs que la vue. On peut s'en passer pour marcher, mais pas pour voir. Sans eux, on peut être saint, mais non revêtu de la puissance divine. Voir Actes chapitre 3, verset 12. La nécessité de les posséder est soulignée par l'instruction, l'ordre donné par ces mots. Aspirez aux dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Et aspirez aux dons spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Celui qui croit au miracle aujourd'hui n'a pas de difficulté à accepter ceux de la Bible. Comment, par contre, croire au miracle, entre guillemets, du retour du Seigneur, avec résurrection des morts, enlèvement des croyants, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, si l'on ne peut croire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Car nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été baptisés, tous été abreuvés d'un même esprit. L'apôtre souligne, par le mot « un », mot-clé du verset, que les dons spirituels émanant d'une source unique devraient produire l'unité chez ceux qui les possèdent. Il les met en garde contre les divisions, verset 25, qui résulte de l'envie et de la rivalité dans l'usage des dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 22 à 26, la pensée de l'unité continue. Le but de l'esprit dans la distribution des dons, c'est l'unité dans la diversité, et l'harmonie est dans la complémentarité, l'interdépendance des uns avec les autres. Exemple de l'aveugle et du paralytique qui purent répondre à une invitation, car l'aveugle porta le paralytique qui ne pouvait marcher, mais qui, entre guillemets, voyait pour lui. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 31. C'est lui qui fait l'oreille et lui donne toute sa place dans le corps. La croix rend membre de la famille céleste, mais le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels rendent efficaces les croyants dans le corps de Christ. Verset 29-30. Aux sept questions, tous ont-ils ? La réponse évidente et sous-entendue est non. Tous parlent-ils diverses langues ? Non. Il s'agit ici de l'exercice de dons spirituels et non du baptême dans le Saint-Esprit. Je précise cela dans un instant. Ainsi, il est établi par les Écritures que tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit parlent en langue, sans toutefois, pour certains à cause de la répartition, exercer le don des langues, l'un des neuf dons. Comme annoncé, précision sur les vocables, nous trouvons, petit a, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, Actes chapitre 2, verset 38, petit b, pour ce qui concerne les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne le don du Saint-Esprit, je lis, Actes chapitre 1er, verset 4 et 5. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes 2, 33. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et... On remarque les divers termes mentionnant la même expérience. La promesse, baptême dans le Saint-Esprit, don du Saint-Esprit, a eu son accomplissement le jour de la Pentecôte, conformément à ce que Jésus avait dit le grand jour de la fête. Jean chapitre 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, et cette promesse demeure au-delà du jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, ici présent, pour vos enfants, nés et à naître, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je le lis dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, puis chapitre 12, verset 4. Diversité de dons. Diversité de ministères, diversité d'opérations. Chapitre 12, verset 7, la manifestation de l'Esprit. Chapitre 12, verset 11, un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Hébreux, chapitre 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et par les dons du Saint-Esprit. Le don spirituel est une manifestation de l'Esprit ou une, entre guillemets, chose opéré par le Saint-Esprit, tandis que le don du Saint-Esprit est l'accomplissement, la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est le don fait par Jésus à ceux qui croient en lui. Les dons spirituels ou dons du Saint-Esprit sont des manifestations du Saint-Esprit données aux croyants par le Saint-Esprit ou opérées par le Saint-Esprit au travers des croyants. Le mot de la fin sera emprunté à Moïse dans Nombre, chapitre 11, verset 29. « Que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Amen.